Aristophane, Les Nuées, le prologue de la comédie. Le vieux Strepsiade, un paysan que ruine son fils Philippide pour sa passion pour les chevaux, vient trouver, pour essayer de ne pas payer ses dettes, le célèbre Socrate. Le poète le ridiculise, ainsi que ses disciples et les sophistes qui l'entourent. Strepsiade. You, you, oh, souverain Zeus, quelle chose à n'en pas finir que les nuits. Le jour ne viendra donc pas. Il y a déjà longtemps que j'ai entendu le coq, et mes esclaves dorment encore. Ah, cela ne serait pas arrivé autrefois. Maudite sois-tu, aux guerres, pour toutes sortes de raisons, mais surtout parce qu'il ne m'est pas permis de châtier mes esclaves. Et ce bon jeune homme qui ne se réveille pas de la nuit. Non, il pète, empaqueté dans ses 5 couvertures. Eh bien, si bon nous semble, ronflons dans notre enveloppe, mais je ne puis dormir, malheureux, rongé par la dépense, l'écurie et les dettes de ce fils qui est là. Ce bien peigné monte à cheval, conduit un char, et ne rêve que chevaux, et moi, je ne vis pas quand je vois la lune ramener les 20 jours, car les échéances approchent. Enfin, allume la lampe et apporte mon registre, pour que, l'ayant en main, je lise à combien de gens je dois et que je suppute les intérêts. Voyons, que dois-je? 12 minapatias. Pourquoi 12 minapatias? Pourquoi ai-je fait cet emprunt? Parce que j'ai acheté Copatias. Malheureux que je suis, pourquoi n'ai-je pas eu plutôt l'œil fendu par une pierre? Philippide rêvant. Philon, tu triches. Fourdis ta course toi-même. Voilà, voilà le mal qui me tue. Même en dormant, il rêve chevaux. Combien de courses doivent fournir ces chars de guerre? C'est à moi, ton père, que tu en fais fournir de nombreuses courses. Voyons, quelle dette me vient après Patias? 3 mines à Aminias, pour un char et des roues. Philippide, toujours rêvant. Amène le cheval à la maison, après l'avoir roulé. Mais malheureux, t'as déjà fait rouler mes fonds. Les uns ont des jugements contre moi, et les autres disent qu'ils vont prendre des sûretés pour leurs intérêts. Philippide éveillé. Eh, mon père, qu'est-ce qui te tourmente et te fait te retourner toute la nuit? Je suis mordu par un démarque sous mes couvertures. Laisse-moi, mon bon père, dormir un peu. Dors donc, mais sache que toutes ces dettes retomberont sur ta tête. Hélas! Ah, périsse misérablement l'agence matrimoniale qui me fit épouser ta mère. Moi, je menais au champ une vie des plus douces, un culte négligé et couché au hasard, riche en abeilles, en brebis, en marques d'olive. Alors, je me suis marié, moi paysan, à une personne de la ville, à la... Laisse-moi, mon bon père, dormir un peu. Dors donc, mais sache que toutes ces dettes retomberont sur ta tête. Alors, je me suis marié, moi, paysan, à une personne de la ville, à la nièce de Mégaclès, fils de Mégaclès, femme altière, luxueuse, fastueuse, comme Coessira. Lorsque je l'épousais, je me mis au lit, sentant le vin doux, les figues sèches, la tonte d'Hélène. Elle, tout parfum, safran, tendre baiser, dépense, gourmandise, coliace, génétilice. Oh, je ne dis pas qu'elle fut oisive, non, elle tissait. Et moi, lui montrant ce vêtement, je prenais occasion de lui dire, « Femme, tu serres trop les fils. » Un serviteur. « Nous n'avons plus d'huile dans la lampe. » Strepsiade. « Malheur. Pourquoi m'avoir allumé une lampe buveuse? Allez, viens ici que je te fasse crier. Et pourquoi crierais-je? Parce que tu as mis une trop grosse mèche. Après cela, lorsque nous arriva ce fils qui est là, nous nous disputâmes, moi et mon excellente femme, au sujet du nom qu'il porterait. Elle voulait qu'il y eût du cheval dans son nom, Xantippos, Kairippos, Kallipides, enfin, au bout de quelque temps, nous fîmes un arrangement et nous le nommâmes Philippide. Elle, embrassant son fils, le caressait. « Ah, quand tu seras grand, tu conduiras un char à travers la ville, comme Mégaclès, et vêtu d'une belle robe. » Moi, je disais, « Quand donc feras-tu descendre tes chèvres du mont Phelleus, comme ton père, vêtu d'une peau de bique ?» Mais il n'écoutait pas mes discours, et sa passion pour le cheval a coulé mon avoir. Mais maintenant, durant cette nuit, à force d'y songer, j'ai trouvé un expédient merveilleux qui, si je puis le convaincre, sera pour moi le salut, mais je veux d'abord l'éveiller. Seulement, comment l'éveiller le plus doucement possible? Comment? Philippide! Mon petit Philippide! Quoi, mon père? Un baiser, et donne-moi la main. Voici, qu'y a-t-il? Dis-moi, m'aimes-tu? Oh, j'en jure par Poséidon, dieu des chevaux. Non, non, pas de ce dieu des chevaux. C'est lui qui est la cause de mes malheurs, mais si tu m'aimes réellement, et de tout mon cœur, ô mon enfant, suis mon conseil. En quoi faut-il que je suive ton conseil? Change au plus tôt de conduite, et va prendre des leçons où je t'indiquerai. Parle, qu'ordonnes-tu? Et tu obéiras. J'obéirai, j'en jure par Dionysos. Regarde ce côté. Vois-tu cette petite porte et cette petite maison? Je les vois, mais mon père... Qu'est-ce que cela veut dire? C'est le philosophoir des âmes sages. Là sont logés des hommes qui disent et démontrent que le ciel est un étouffoir dont nous sommes entourés et nous des charbons. Ils enseignent, si on leur donne de l'argent, à gagner les causes justes ou injustes. Qui sont-ils? Oh, je ne sais pas exactement leur nom. Ce sont de profonds penseurs, beaux et bons. Ah oui, les misérables, je les connais. Ce sont des charlatans, des hommes pâles, des va-nu-pieds, que tu veux dire. Et parmi eux, ce maudit Socrate et Chéréphon. Hé, tais-toi, ne dis pas de bêtises. Si tu as un souci des orges paternels, deviens l'un d'eux et lâche-moi l'équitation. Ah non, par Dionysios, quand tu me donnerais les faisans que nourrit Léogoras. Vas-y, je t'en supplie, ô toi, l'homme le plus cher à mon cœur, entre à leur école. Et qu'est-ce que j'y apprendrai? Ils disent qu'il y a deux raisonnements, le supérieur et l'inférieur. Ils prétendent que, par le moyen de l'un de ces deux raisonnements, c'est-à-dire de l'inférieur, on gagne les causes injustes. Si donc tu m'y apprenais ce raisonnement injuste, de toutes les dettes que j'ai contractées pour toi, je ne paierais une obole à personne. Oh, je n'y saurais consentir. Je n'oserais pas regarder les cavaliers avec ma face jaune et maigre. Alors, par Déméter, vous ne mangerez plus mon bien, ni toi, ni ton attelage, ni ton cheval. Je te chasse de ma maison, et je t'envoie au corbeau marqué O.S. Mon oncle Mégaclès ne me laissera pas sans monture. Je vais chez lui, et je me moque de toi. Eh bien, moi, pour une chute, je ne reste point par terre. mais j'invoquerai les dieux et j'irai moi-même au philosophe foire. Comment, vieux comme je suis, sans mémoire et l'esprit lent, comment apprendrai-je les broutilles de leur raisonnement raffiné? Il faut y aller. Pourquoi hésiter encore et ne pas frapper à la porte? Enfant, petit enfant, un disciple. Va-t'en, corbeau, qui frappe à la porte? Strepsiade. Le fils de Phidon, Strepsiade, du dème de Sicina, le disciple. De par Zeus, tu dois être un grossier personnage, toi qui donnes à la porte un coup de pied si brutal et qui fais avorter la conception de ma pensée. Pardonne-moi encore, j'habite loin dans la campagne, mais dis-moi la chose avortée. Ben, il n'est permis de le dire qu'aux disciples. Dis-la-moi donc sans crainte, car je viens comme disciple au philosophoire. Je la dirai, mais songe donc, ce sont des mystères. Socrate demandait tout à l'heure à Chéréphon combien de fois une puce saute la longueur de ses pattes. Elle avait piqué Chéréphon au sourcil, et de là, elle était sautée sur la tête de Socrate. Et comment a-t-il mesuré cela? Très adroitement. Il a fait fondre de la cire, puis il a pris la puce et il lui a trempé les pattes dedans. La cire refroidie a fait à la puce des souliers persiques, et en les déchaussant, il a mesuré l'espace. Oh, je souverain! Quelle finesse d'esprit! Ah, que serait-ce si tu apprenais une autre invention de Socrate? Laquelle? Je t'en prie, dis-la-moi. Chéréphon, du dème de Sphatos, lui demandait s'il pensait que le bourdonnement des cousins vient de la trompe ou du derrière. Et qu'a-t-il dit au sujet du cousin? Il a dit que l'intestin du cousin est étroit et que, à cause de cette étroitesse, l'air est poussé tout de suite avec force vers le derrière. Ensuite, l'ouverture de derrière communiquant avec l'intestin, le derrière résonne par la force de l'air. Ainsi, le derrière des coussins est une trompette. Trois fois heureux l'auteur de cette découverte. Oh, il doit être facile d'échapper à une poursuite en justice quand on connaît à fond l'intestin du cousin. Dernièrement, il fut détourné d'une haute pensée par lézard. De quelle manière, dis-moi? Il observait le cours de la lune et ses révolutions, la tête en l'air, la bouche ouverte. Un lézard, du haut du toit, pendant la nuit, lui envoya sa fiente. Oh, il est amusant, ce lézard qui fait dans la bouche de Socrate. Hier, nous n'avions pas à souper pour le soir. Eh bien, qu'imagina-t-il pour avoir des vivres? Il étend sur la nappe une légère couche de cendre, courbe une tige de fer, prend un fil à plomb et de la palestre, il enlève un manteau. Nous admirons le célèbre Thalès. Ouvre-moi vite le philosophoire et fais-moi voir au plus tôt Socrate. J'ai hâte d'être son disciple. Mais ouvre donc la porte. Oh, Héraclès, de quel pays sont ces animaux? Qu'est-ce qui t'étonne? À quoi trouves-tu qu'ils ressemblent? Aux prisonniers de Pylos, aux Laconiens? Mais pourquoi regardent-ils ainsi la terre? Ils cherchent ce qui est sous la terre. Ah, ils cherchent donc des oignons. Ben, ne vous donnez pas maintenant tant de peine, je sais moi où il y en a de gros et de beaux. Mais que font ceux-ci tellement courbés? Ils sont de les abîmes du Tartare. Et leur derrière, qu'a-t-il à regarder le ciel? Il apprend aussi pour son compte à faire de l'astronomie. Mais rentrez, de peur que le maître ne vous surprenne. Pas encore, pas encore. Qu'il reste afin que je leur communique une petite affaire. Mais ils ne peuvent pas demeurer trop longtemps à l'air et au dehors. Au nom de Dieu, qu'est-ce ci, dis-moi? L'astronomie. Et cela? La géométrie. À quoi cela sert-il? À mesurer la Terre. Celle qui se partage au sort? Ah non, la Terre entière. C'est charmant ce que tu dis là. Voilà une invention populaire et utile. Tiens, voici la surface de la Terre entière, vois-tu? Ici, c'est Athènes.
Que dis-tu? Je ne te crois pas, je n'y vois point de juge en séance.
C'est pourtant réellement le territoire attique.
Et où sont mes concitoyens de Sicina?
C'est ici qu'ils habitent. Voici le B, tu vois, cette terre qui s'étend en longueur infinie.
Je vois. Nous l'avons pressurée, nous et Périclès. Mais où est la Cédémone?
Où elle est? Ici?
Comme c'est près de nous. En changez-y bien. Éloignez-la de nous à la plus grande distance possible.
Il n'y a pas moyen.
Par Zeus, vous en gémirez.
Mais quel est donc cet homme
juché dans un panier?
Lui?
Qui lui?
Socrate.
Socrate? Voyons-toi, appelle-le-moi donc bien fort. Appelle-le toi-même, moi, je n'en ai pas le temps, Socrate. Pourquoi m'appelles-tu être éphémère?
Strepsiade.
Mais d'abord, que fais-tu là? Je t'en prie, dis-le-moi.
Je marche dans les airs et je contemple le soleil.
Alors c'est du haut de ton panier que tu regardes les dieux et non pas de la terre, si toutefois je ne pourrais jamais pénétrer nettement dans les choses d'en haut. Si je ne suspendais mon esprit, et si je ne mêlais la subtilité de ma pensée avec l'air similaire, si, demeurant à terre, je regardais d'en bas les choses d'en haut, je ne découvrirais rien, car la terre attire à elle l'humidité de la pensée. C'est précisément ce qui arrive au cresson. Que dis-tu? Ta pensée attire l'humidité sur le cresson. Ah, mais maintenant descends, mon petit Socrate, afin de m'enseigner les choses pour lesquelles je suis venu.
Pourquoi es-tu venu?
Je veux apprendre à parler. Les prêteurs à intérêt, race intraitable, me poursuivent, me harcèlent, se nantissent de mon bien. Comment t'es-tu donc entêté sans le savoir? C'est l'hypomanie qui m'a ruiné, maladie dévorante.
Mais enseigne-moi l'un de tes deux raisonnements, celui qui sert à ne pas payer.
Et quel que soit le salaire, je jure par les dieux de te le payer.
Par quel dieu jures-tu?
D'abord, les dieux ne sont pas chez nous une monnaie courante.
Ben pourquoi jurez-vous donc? Est-ce par de la monnaie de fer comme à Byzance?
Veux-tu connaître honnêtement les choses célestes, ce qu'elles sont au juste?
Oui, par Zeus, si elles sont.
Et converser avec les nuées, nos divinités?
Assurément.
Assois-toi donc sur la banquette sainte.
Voilà, je suis assis.
Maintenant, prends cette couronne.
À quoi bon une couronne?
Malheur à moi, Socrate, est-ce que vous allez me sacrifier comme à Camas?
Non, 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 c'est tout ce que nous faisons aux initiés.
Eh bien, qui gagnerais-je?
D'être un roué, en fait de langage, une cliquette, une fleur de farine.
Seulement, ne bouge pas.
Par Zeus,
Tu ne mens pas. Saupoudré comme je suis, je vais devenir fleur de farine. Il faut que ce vieillard observe le silence et qu'il écoute la prière. Souverain maître, air immense qui enveloppe la terre de toutes parts, éther brillant, et vous, nuées, vénérable déesse, mère du tonnerre et de la foudre, levez-vous, ô souveraine, apparaissez aux penseurs dans les régions supérieures. Pas avant que je me sois enveloppé de ce manteau, de peur d'être inondé, d'avoir pas pris en sortant de chez moi une casquette de peau de chien. Quelle malchance! Venez, ô nuée vénérée, vous manifester à cet homme, soit que vous occupiez les cimes sacrées de l'Olympe battues par les neiges, soit que dans les jardins de votre père Océan, vous formiez un cœur sacré avec les nymphes, soit que, aux bouches du Nil, vous puisiez des eaux dans des cornes d'or, que vous résidiez au marais Méotide ou sur le rocher des jeux du Mimas. Écoutez-moi, accueillez notre sacrifice et que nos cérémonies vous fassent plaisir. Et ici commence le cœur des nuées.